Co avec le Secours Islamique France. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM. Beurre FM, sur les traces du prophète Abdelali Mamoun.
Nous commençons à prendre notre rythme de croisière et vous le savez, tous les soirs nous marchons sur les traces du prophète. C'est le feuilleton que Beurre FM vous propose pendant ce mois de Ramadan. Et celui qui nous sert de guide et qui nous raconte cette histoire, c'est l'imam Abdelali Mamoun. Bonsoir, bienvenue, ravi de vous retrouver. Bonsoir imam Abdelali.
Bonsoir Philippe, salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Hier, nous avons commencé à voir les débuts de la révélation. On a vu les deux premières parties de cette révélation. Bien sûr, quand le prophète est rentré chez lui et qu'il demande à Khadija de le couvrir, Khadija ne voit pas ce qui se passe.
Alors, elle commence à réfléchir.
Elle assiste.
Elle se pose des questions. Oui. Elle se dit, mais attends, ya Mohamed, oh mon chéri, parce qu'elle l'appelle mon chéri, Habibi, tu es mon chéri, c'est son mari. Donc elle lui dit, mais ça, il peut pas t'arriver quelque chose de mal. Tu es quelqu'un connu comme étant bienfaiteur dans la ville. Tu es quelqu'un qui aide les gens en difficulté. Tu es quelqu'un qui a le sens de l'hospitalité. Innaka la tuqrid dayf wa tu'inu ala nawa'ib ad-dahr. Et quand il y a des malheurs que la ville ou les habitants de la ville subissent, tu es le premier à participer et à aider. Tu ne peux pas être victime de ce genre d'actes paranormaux, parce que probablement tu es quelqu'un de protégé par Dieu, puisque tu es tellement bon que tu ne peux être qu'entouré que par des anges protecteurs. Voilà ce que lui dit Khadija. Elle est convaincue que son mari est un homme tellement bon qu'il ne peut pas lui arriver quelque chose de mal. Donc ce qui lui arrive n'est pas mal, n'est pas quelque chose de mauvais. Même si elle le voit tout tremblant, particulièrement traumatisé et choqué par ce qui vient de lui arriver, elle est persuadée que ce qui lui arrive est quelque chose de bien. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide d'aller rencontrer tout simplement un cousin à elle qui s'appelle Waraqat ibn Nawfal. Waraqat ibn Nawfal est un homme qui a énormément lu les textes bibliques. Donc il connaît très bien la religion juive et chrétienne. C'est un érudit, un des érudits de la Mecque, mais surtout c'est un monothéiste. C'est un des rares hommes qui, avant l'avènement de l'islam, croyait en un Dieu unique. Et il n'est pas le seul. Il y avait, Zayd ibn Amr. Zayd ibn Amr, le père de Saïd ibn Amr. Saïd ibn Zayd, qui est le cousin de Omar al-Khattab, qui lui aussi, son père, donc... Zayd ibn Amr était lui aussi un homme qui croyait en un seul Dieu. Il a même des poésies, des proses dans lesquelles il évoque l'obligation de l'homme de se soumettre que seulement à Allah subhanahu wa ta'ala et de rejeter toutes les idoles. Donc à ce moment-là, Waraqat ibn Nawfal, quand Khadija, sa cousine, lui dit ce qu'a subi son mari, il répond quoi? Il lui dit abshir, abshir thumma abshir. Annonce la bonne nouvelle et annonce, je t'annonce la bonne nouvelle. Fa inni ushhidu annaka ar-rasul, je te mets à témoin, ou je te témoigne que tu es ce fameux messager que nous attendons. Alladhi bushira bihi aw bashara bihi Isa bi rasul yati min ba'd ismihi Ahmad. Que tu es cet homme que Isa, Jésus-Christ, avait annoncé l'avènement après lui et qui s'appelle Ahmed. Tu es le fameux Ahmed. Fa ana ashhadu annaka anta Ahmed. Et je témoigne que c'est toi Ahmed. Wa anna nashhadu annaka Muhammad wa anna nashhadu annaka Rasulullah. Et je témoigne que tu es Muhammad, tu es le messager d'Allah, messager de Dieu. Wa la yushiku an tu'maru bil qital, ana hayyun la uqatilanna ma'ak. Et bientôt arrivera un jour où tu seras combattu et j'aimerais faire partie de ces hommes qui combattraient de ton côté et défendront ta cause, ya Mohammed. Mais malheureusement, il mourut peu de temps après, parce que c'était un homme très âgé. Waraqat ibn Nawfal, c'était un érudit, mais c'était quand même un homme assez âgé et qui mourut peu de temps après. Mais n'empêche que il est celui qui a rassuré Khadija et son prophète et son mari que ce qui lui est arrivé était véritablement...
Ils sont allés ensemble, alors, Khadija et le prophète.
Ah oui, oui, tout à fait. Il entend lui aussi ce que dit Waraqat ibn Nawfal. Et Donc on peut considérer qu'il est le tout premier converti à l'islam, puisque il est converti même avant Mohammed, puisque avant que Mohammed lui-même soit convaincu que c'est un messager de Dieu, eh bien Waraqat ibn Nawfal, lui, c'est lui qui lui rappelle, qui lui dit que c'est toi véritablement le prophète.
Alors après on dit que c'est Khadija la première
alors,
musulmane.
Oui, Khadija elle aussi, elle a déjà la foi qui rentre dans son cœur, elle commence à être de plus en plus convaincue. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rentrer chez elle et elle va réaliser quelque chose qui va lui permettre d'être sûre que c'est véritablement la révélation, que c'est vraiment un prophète. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit à Mohammed, « Ya Mohammed, je vois que l'archange ou cette entité qui vient te voir, eh bien, si c'est un vrai ange, eh bien, je le serai. J'ai trouvé le moyen et la méthode pour le découvrir. » Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit à son mari, « Quand il arrive, tu me préviens. » Et effectivement, quand l'archange arrive voir le prophète encore une fois, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à se déshabiller. C'est-à-dire, elle dévoile sa cuisse, elle commence à montrer ses parties intimes, et elle prend le prophète et elle pose sa tête sur sa cuisse. Évidemment, les anges qui sont des créatures pudiques, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils repartent. L'archange Gabriel ne reste pas près de Khadija et de son mari, parce qu'ils ont honte quand, bien sûr, un homme et sa femme ont des rapports. Lui ne reste pas dans la pièce, il s'en va. Et le prophète dit à Khadija, il repart, il est en train de repartir, il me quitte, il est en train de repartir. Cette entité-là qui me prend l'esprit et le corps, eh bien, est en train de repartir. Et là, elle comprend rapidement qu'il s'agit véritablement de l'archange Gabriel et que ce qui lui arrive est véritablement une révélation. Alors que si c'était une entité démoniaque, elle ne serait pas repartie. Parce que les entités démoniaques n'ont pas la honte, n'ont pas la pudeur des anges. Hein, comme le dit le prophète, le dira plus tard le prophète dans un hadith, inna al-malaika la tastahi mimma yastahi minhu ibn adam. Les anges sont imprégnés de pudeur de la même manière que les humains. Les humains ont la même pudeur que les anges. Ou les anges ont la même pudeur que les hommes. Donc à partir de là, elle comprend que c'est véritablement enfin le prophète de la fin des temps, le sceau des prophètes, qu'il faut que, bien entendu, elle va soutenir corps et âme et de tous les moyens qu'elle disposait. Donc à partir de là, le prophète a reçu cette deuxième injonction qui consiste à s'imprégner de la connaissance, de s'imprégner de la foi. Maintenant, il doit recevoir de Dieu l'attestation qu'il est digne du comportement d'un prophète. Donc Dieu lui révèle le verset de Sourate Al-Qalam, la sourate, le stylo, la plume, qui est l'accomplissement, ce fameux diplôme divin qu'il a véritablement été forgé pour devenir un prophète. Et Dieu lui révèle, lui dit Noun, c'est le début de la sourate, Noun, la lettre Noun, wal qalami wa ma yasturun, et le stylo est ce qu'il va écrire. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, tu n'es pas sur les bienfaits de Dieu atteint de folie. Ma anta bi ni'mati wa innaka la inna 'alayka la ajran ghayra mamnun, et tu as de la part de Dieu une récompense sans aucune contrepartie. Wa innaka la ala khuluqin adhim, et tu es celui qui est doté d'une très grande valeur et noblesse de caractère. Donc à partir de là, Dieu révèle à son prophète que tu as les qualités, les caractéristiques physiques, comportementales pour devenir le prophète de la fin des temps. Donc là, il reçoit encore une fois la quatrième révélation. La quatrième révélation, c'est celle qui va faire de lui non plus un prophète, puisque le prophète, c'est celui qui reçoit une révélation, mais qui n'est pas forcément ordonné de la transmettre. Donc il n'est que prophète, mais pas messager. Et c'est ce quatrième verset qui va faire de lui non plus seulement un prophète, mais aussi un messager. Parce que je rappelle aux auditeurs et auditrices qu'un prophète, c'est celui qui reçoit la révélation, et qu'il y en avait 124 000 qui ont reçu la révélation sans forcément recevoir l'ordre de le transmettre, mais que sur ces 124 000 prophètes, il y en avait seulement 315 ou 314 qui étaient des messagers de Dieu, c'est-à-dire qui ont reçu l'ordre de le transmettre à leur communauté respective. Mais que Mohammed, le sceau des prophètes, n'est pas là simplement pour transmettre la révélation à sa communauté mécoise ou arabe, mais à toute l'humanité. Puisque Dieu lui dira, Ya ayyuha al-muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fa'kabbir, wa thiyabaka fa'tahir. Ô mon Dieu, ô celui qui cherche à être enveloppé, à être, Dorloté, on va dire ça comme ça. Un mot d'affaire, c'est le dorloté, celui qui est consolé, qui obtient de Khadija la protection spirituelle et psychologique. Eh bien, il lui dit, lève-toi et avertis les gens. Mets-les en garde. Que ce qu'ils sont en train de faire autour de la Kaaba et toutes ces idoles qu'ils sont en train de vénérer à la place d'Allah, eh bien, cela soulève le courroux d'Allah et la colère de Dieu. Donc, il faut qu'impérativement ils arrêtent. Et il faut que tu les mets en garde et que tu leur dises d'arrêter de faire ça. Donc, le prophète devient à partir de là un prophète messager. Nabiyun Rasoul. Nabiyun wa Rasoul. Un prophète et un messager en même temps. Donc, il lui dit. Et ton Dieu chante la gloire et la grandeur. Il lui dit de dire Allahu Akbar en gros. Dieu dit à son prophète de dire Allahu Akbar. Chaque musulman qui dit Allahu Akbar ne fait qu'imiter l'injonction divine que Dieu a transmise à son prophète quand il lui dit de dire Allahu Akbar. Allahu Akbar est Dieu est plus grand. Et ton apparence extérieure purifie-la. C'est-à-dire, tu dois apparaître de la même manière que ce que tu es au fond de toi-même, un être pur, un être bon, un être pieux, un être bienfaiteur, un être bienveillant, un être qui véritablement réalise l'ordre établi sur terre et tu deviens une source de paix, une source qui combat le chaos, le désordre et la tyrannie. Tu es là pour imposer dans l'humanité la justice divine. Tu es là pour imposer que les hommes se respectent les uns les autres. Et en même temps, tu es là pour leur faire passer un message que verticalement, ils ont un devoir de lier un lien spirituel. Parce que l'homme a besoin, l'âme de chaque homme a besoin de cette nourriture spirituelle et cette nourriture venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il puisse jouir de la béatitude dans ce bas monde avant l'au-delà. C'est ce que le prophète va transmettre son entourage. Et il dit effectivement, voilà ce que Jibril m'a dit, voilà ce que Jibril m'a révélé, et il va le transmettre à Khadija. Khadija tout de suite va dire, je témoigne qu'il n'y a d'un Dieu que Dieu, et je témoigne que tu es le messager de Dieu. C'est la première femme convertie à l'islam. Ensuite, il va voir son meilleur ami, Ibrahim Abu Bakr, et la suite, nous la découvrirons demain, Inch'Allah ta'ala.
Et vous réécoutez cet épisode en podcast sur beurrefm.net. Je vous rappelle que si vous avez des questions à poser à l'imam Abdelali Mamoun, allô l'imam, c'est dans un instant. Vous composez le numéro du standard de beurrefm 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Ramadan & Co revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur beurrefm.
Et oui, Ramadan & Co, 30 jours avec vous. Bonsoir, bienvenue, bon Ramadan. Quel plaisir de partager ces moments de mois de Ramadan avec vous tous. L'imam Abdelali Mamoun a fait ses échauffements, ses assouplissements.
Oui, hein? Taekwondo, tu veux dire?
Bah oui, c'est du taekwondo. J'étais assez impressionné parce que vous avez, il a une forme de routine hein, avant l'émission. Il fait toujours ses mouvements de taekwondo.
Non, pas tous les jours là. C'est exceptionnel parce que j'étais provoqué par un gars qui est venu. Il m'a provoqué. C'est une réaction impulsive.
Vous pendant le Ramadan, vous êtes énervé.
Mais non, mais c'est sauf si je dis salam alaykoum, voilà, que la paix soit sur vous, bon. La miséricorde de Dieu et sa bénédiction. Voilà. Wa rahmatullah wa barakatuh.
Je confirme que vous êtes très souple, imam.
Ouais, mais en même temps, je suis très pacifiste.
C'est vrai.
Non, on est d'accord.
Vrai, tiens, très souple jusqu'à 19h06, puisque c'est l'heure à laquelle vous ferez l'aden en direct, imam Abdelali. Ce soir.
Oui, à quelle heure? 19h combien?
6.
6, ça va.
J'espère que vous n'avez pas trop faim. Vous tiendrez jusqu'à là.
Pour l'instant, ça va. On a bien rigolé là avant. En coulisses, c'est tout. Voilà. Alhamdulillah, ça se passe bien.
Bien, les 01 53 48 3000, vous connaissez bien le principe de cette émission désormais. Donc c'est allô l'imam et vous posez vos questions à l'imam Abdelali Mamoun. On débordera un peu plus parce qu'on commence à avoir un peu plus de temps là. On a gagné combien? On a gagné
un quart d'heure.
Ouais, à peu près 15 minutes depuis le début de l'émission.
Alors, depuis le début du mois du Ramadan.
Ouais. Alors, on écoute Naya qui est avec nous au 01 53 48 3000. Naya, bonsoir, bienvenue et bon Ramadan.
Oui, bonjour, c'est
Noa Pamela. Naam, alaykoum salam. Oui, je vous écoute.
Alaykoum salam, chef.
Oui.
Je vous appelle aujourd'hui justement parce que j'ai une conférence à Bordeaux et je dois me déplacer, mais je sais que le trajet fait rompre le jeûne. Et moi, je ne veux pas rompre le jeûne, je veux continuer mon jeûne.
Mais qui a dit que le voyage fait rompre le jeûne? Non, il... Oui. Allez-y. Non, allez, dites-moi, c'est quoi votre question? J'ai pas bien compris la question.
C'est-à-dire, on dit que c'est à partir de 100 km, normalement, le voyageur ne doit pas jeûner.
Attendez, madame, répondez pas aux questions. Posez-moi la question et moi je réponds, c'est mieux. D'accord, dites-moi, c'est, qu'est-ce que je dois faire? Je dois partir d'un tel endroit à tel endroit pendant tant de jours et moi je réponds, c'est ce que vous pouvez faire. Ce que vous ne pouvez pas faire.
Je dois me déplacer à Bordeaux vendredi.
Et de où? De Paris?
Oui, de Paris.
D'accord, à Paris à Bordeaux, ok. Paris-Bordeaux-Le-Mans, c'est ça? En passant par Le Mans. et combien de jours là-bas vous restez?
Je reste pour le week-end et je rentrerai le dimanche.
D'accord, bah écoutez. Quand vous quittez votre maison, que vous arrivez à la gare, à partir du moment où vous rentrez, vous montez dans le train, vous êtes dans le train, à partir de là, il vous est possible de continuer de jeûner ou il vous est possible de casser le jeûne et de manger, de boire et jusqu'à votre retour. C'est-à-dire que vous partez là-bas, vous faites ce que vous avez à faire là-bas et revenir jusqu'à que vous rentrez, vous posez vos valises à la maison. Eh bien, vous êtes voyageur, vous avez la possibilité de ne pas jeûner et vous avez la possibilité aussi de regrouper vos prières et de les raccourcir, ce qu'on appelle tatbiq al-taqsir wal-jam'a. Al-jam'a al-taqsir fi salah. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, oui.
Vous voulez que je vous explique? Taqsir, ça veut dire toutes les prières à quatre unités, elles passent à deux et vous pouvez regrouper dhuhr al-asr et le maghrib al-isha. Dhuhr al-asr ensemble la journée et le maghrib al-isha le soir.
Mais d'accord. Moi, je veux continuer à manger.
Eh bien oui, bien sûr. Le prophète, il n'a pas interdit les gens de jeûner pendant le voyage. Il a dit que c'est possible de rompre, n'a pas imposé. Celui qui veut continuer à jeûner, il jeûne, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucune difficulté à jeûner, mon frère, ma soeur.
Ok, il n'y a pas de souci. C'est ce que je voulais confirmer avec vous.
C'est pas, même si c'est 60 km ou peu importe, quel que soit...
D'un pays à l'autre.
Oui, oui, oui. Écoutez, le jeûne, pour le voyageur, n'est pas interdit. À qui c'est interdit de jeûner? C'est la femme indisposée. La femme qui est indisposée, qui a ses cycles menstruels, quand elle a son cycle menstruel, elle ne peut plus jeûner. Elle n'a pas le droit de jeûner. Aussi, celui qui n'a pas le droit de jeûner, c'est un malade qui sait que s'il jeûne, il risque de mourir ou risque d'aggraver sa situation de santé. Celui-là aussi n'a pas le droit de jeûner. Mais les autres qui voyagent ou qui sont un peu malades ou qui sont en état d'impureté majeure parce qu'ils ont eu des relations la nuit, ceux-là ils peuvent jeûner, même en état d'impureté majeure. Mais le cycle menstruel vous interdit le jeûne. Et c'est tout.
Merci pour votre question. Sofiane est avec nous au 01 53 48 3000. Bonsoir, bienvenue et bon ramadan, Sofiane.
Bonsoir, merci.
Salam alaikum.
Alaikum salam. J'avais une question, s'il vous plaît.
Oui, j'écoute.
En fait, j'avais un débat avec ma femme. Moi, en fait, les tarawih sont filmés directement sur YouTube à notre mosquée. Et moi, je lui dis, tu peux faire tarawih à la maison. Tu suis YouTube. Et en fait, dans le chat de la mosquée, il y a quelqu'un qui a dit qu'on ne pouvait pas faire ça. Moi, je pense que c'est couillé, donc on a eu ce débat-là, pour savoir votre avis là-dessus.
Non, on ne peut pas utiliser les écrans à très longue distance, que seulement si l'écran il est directement relié à l'imam. C'est-à-dire que vous êtes dans une mosquée, et il y a une salle de prière, qui est par exemple annexée à côté pour les hommes ou pour les femmes, et il y a un écran qui est directement relié à l'imam. Celui-là, oui, vous pouvez prier derrière cet écran, et derrière le son et la sonorisation qui vient directement de l'imam. Mais si c'est un son qui émane d'une radio ou d'un enregistrement YouTube, etc., non, vous ne pouvez pas prier Salat al-Tarawih derrière cet imam. Vous pouvez éventuellement, par exemple, réciter la Fatiha in Surah et écouter le Coran qui est récité sur YouTube, etc. Mais il vous faut, vous appliquer les piliers. Vous serez imposé comme une prière de fard, c'est-à-dire de période, une personne qui prie seule. Parce qu'il est à la maison, il y a un écran, certes, peut-être devant lui. Mais voilà, ça c'est le mieux qu'on puisse vous autoriser, c'est d'écouter, mais il vous faudra accomplir les piliers de la prière. C'est-à-dire takbirat al-ihram, la fatiha, la surah, et après si vous voulez écouter un peu le Coran avant de vous incliner, vous pouvez.
Voilà, Sophie.
Le mieux, c'est de prier normalement. Et ensuite, quand vous voulez écouter le Coran, vous le faites assis, vous allongez, vous écoutez, vous écoutez le Coran.
Mais on ne peut pas suivre YouTube.
Non,
c'est ça que ça veut dire.
On ne peut pas prier derrière un imam qui est virtuel. Il n'existe pas, il est virtuel. YouTube, c'est quoi? C'est un enregistrement. L'imam, il n'y a pas.
Non, il est en direct.
Non, YouTube. YouTube, c'est des enregistrements, on est bien tard, c'est des vidéos.
Ça peut être en direct, YouTube.
YouTube, ça peut être en direct.
Ouais, ça peut être en direct, YouTube.
Direct.
Ouais, ça peut être
alors,
en direct.
Écoutez, y compris quand c'est en direct. Alors, parce que, tout simplement, la personne peut très bien être des distances très lointaines, etc. Bon, en tout cas, à partir du moment où vous n'êtes pas dans la mosquée, derrière l'imam, il y a une sonorisation avec une vidéo, par exemple, où vous avez accès directement à l'imam, ça n'est pas possible de prier derrière l'imam, parce que normalement, vous devez déjà être en lien avec le rang, les derniers rangs qui prient. Chez vous, vous êtes loin de la Salat al-Jama'a. Parce que lui, ce qu'il voudrait, c'est obtenir la récompense de la prière collective. Alors que là, lui, il est tout seul à la maison. Non, ça me semble pas raisonnable que de faire ce genre de choses.
Alors, Samia est avec nous au 01 53 48 3000. Ousmane Timira nous a rejoint.
Oui, bonsoir, que la paix soit sur vous. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Wa alaykoum salam wa rahmatullah.
Comment tu vas?
Ça va, alhamdoulilah, il fait beau.
Ah oui, aujourd'hui il a bien. Fait du bon temps là.
Alhamdoulilah.
Alors Samia est avec nous.
Oui, bonjour, salam alaikum.
Malaikum salam, Samia.
Alors, je vais essayer de poser ma question le plus simplement possible. C'était concernant les âmes. Je voulais savoir si notre âme elle vivait déjà avant d'être incarnée dans notre corps ou pas. En fait, c'est par rapport au sujet des âmes sœurs, quand on dit que nos âmes, en fait, vivaient avant notre naissance. Je ne sais pas si c'est clair, enfin, ma question, si elle est claire ou pas, mais...
Alors, on a interrogé le prophète sur l'âme. Et c'est Dieu qui va donc aider son prophète à répondre, tout simplement en lui disant, écoute, cette question-là relève d'une connaissance mystérieuse et qui est réservée à Dieu. C'est une question qui relève du mystère divin, d'un mystère divin. Donc on ne peut pas prétendre dire voilà, l'âme elle est comme si ou elle est comme ça. On ne sait pas l'entité de quoi il s'agit. Hein, l'âme qui nous fait vivre, qui est à l'intérieur de notre corps. Tout ce qu'on sait, c'est que chaque être humain il a une âme. Kul insan andu ruh wa andahu jasad. Ça c'est sûr. Et le jour de la résurrection, Dieu ressuscitera nos corps et remariera, j'utilise bien le terme remariera, c'est-à-dire reliera le corps avec notre âme, qui sera restée dans une antichambre d'un verger du paradis ou d'un trou de l'enfer. Fahiya kama qala Isa sallam al-qabru rawdatum riyad al-janna aw hufratun min hufarin nar. Pour ce qui est de avant votre naissance, alors il y a un hadith effectivement qui est rapporté par Ibn Abbas dans lequel il fait le tafsir, l'exégèse du verset du Coran dans sourate Al-An'am où Dieu dit dans le Coran wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dhurriyyatahum. Et au moment où est-ce qu'Allah Azzawajal a gratté dans le dos de Ibrahim de Adam, de notre père, les âmes de l'humanité. Et il les a interpellés. Et il leur a dit est-ce que ne suis-je pas votre Seigneur? Toutes les âmes, c'est-à-dire y compris la vôtre, la nôtre et celle que toute âme qui a donné naissance à un être humain et qui a permis la vie à un être humain va répondre, aura répondu du moins dans le passé, parce qu'on parle du passé. Bala, antaqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Que vous ne puissiez pas dire le jour de la résurrection, vous n'étiez pas prédéfini à croire en Dieu et à l'adorer. Hein, parce qu'effectivement, le jour de la résurrection, très bien, quelqu'un pourrait venir, Ya Rabbi, moi, pourquoi tu me mêles dans tout ça? Moi, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai jamais demandé à être créé, ni à t'adorer, ni pourquoi aujourd'hui tu viens me punir? Alors que j'ai rien demandé. J'ai pas demandé à naître, j'ai pas demandé à vivre, j'ai pas demandé à obéir ou à désobéir. Pourquoi tu m'imposes ça? Eh bien, Dieu dira, bah si, tu as accepté le jour où j'ai créé Adam. Et que toi déjà tu te trouvais dans le solb de Adam et tu as répondu à l'appel de Dieu quand il a dit Alastu bi rabbikum, vous avez tous répondu, toi y compris, Bala antaqul yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Voilà comme le dit la sourate Al-An'am.
Alors Ousmane Timira, c'est le sujet.
Oui, c'est un sujet philosophiquement dense. Est-ce que il y a une préexistence avant notre vie comme il y a une existence après cette vie? effectivement, il y a la proto-existence qui nous a fait témoigner de l'unicité de notre Seigneur. C'est un premier élément. Et pour le Coran, il semblerait que c'est un témoignage, bien que nous ne nous en souvenons pas, suffisant pour être un argument contre nous, Yawm al-Qiyama, où on ne pourra pas dire on a juste suivi nos parents, ni l'éducation, ni le poids de la société, n'ont raison normalement, du point de vue divin, de l'oubli, en tous les cas, de la présence de ce témoignage en nous. Deuxièmement, il y a... alors, dans le langage courant, dans l'héritage musulman, on ne fait pas la distinction entre le ruh et le nafs. Il me semble que on devrait revisiter cette question-là. Le Coran fait la distinction entre le nafs et le ruh. Le ruh est lié dans le Coran toujours à l'ordre divin, à la révélation aux anges. C'est le canal de la révélation. C'est ce qui est de l'ordre de l'esprit. Là où l'âme est ce qui permet au corps d'être vivant. Et c'est en lien avec le monde terrestre dans lequel nous nous trouvons. L'âme est le canal de la révélation de l'ordre supérieur. Là où l'âme est en lien, l'esprit, pardon, et l'âme est plutôt en lien avec la vie humaine. Ça, ce sont des éléments qui, je pense, mériteraient d'être développés, Inch'Allah.
Oui, grave et long sujet.
Oui. J'espère qu'elle aura au moins une réponse à sa question.
Bien, de toute façon, Samia, on vous reprend après une courte page de publicité. Je rappelle que, allô l'imam, vous posez vos questions, toutes vos questions religieuses, elles sont les bienvenues au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Ramadan Enco revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Voilà, c'est allô l'imam en première partie au 01 53 48 3000. Alors on était tout à l'heure avec Samia qui posait une question sur les âmes et les âmes sœurs. Samia, est-ce que vous avez eu une réponse à votre question?
Oui. Oui, ça m'éclaircit un peu plus, parce que c'est un débat qu'on a vu avec...
Alors, les âmes sœurs, non. C'est-à-dire, la réponse à votre question, est-ce que les âmes peuvent se rencontrer avant, comme dans la période qu'il vient d'évoquer, Othman, la proto-création, la proto-existence, avant que l'âme soit insufflée dans le corps de l'homme, il ne se passe rien, d'accord ? Il ne peut rien se passer. Il n'y a pas de rencontre entre les âmes avant que les hommes existent, quoi. Il n'y a pas de, avant l'existence, il n'y a pas. Il y a simplement cette question qui a été posée au début du temps, au début de l'humanité, où est-ce que Allah a interrogé Adam et toutes ses filles et tous ses fils, tous les enfants d'Adam, pour leur demander suis-je votre Seigneur? Ils ont tous répondu oui. Cette phrase-là permet à dire que l'homme, l'être humain, est prédéfini et prédisposé à adorer Allah Azzawajal, et à l'adorer et à se soumettre à lui. Et on ne peut pas venir dire Qiyam, bah non, moi, je, c'est pas mon problème. Inna kunna an hadha ghafilin.
Voilà, d'accord. Samia.
Je vous remercie beaucoup.
C'est nous qui vous remercions d'avoir posé votre question. Bon Ramadan.
Avec également un
part. Alors, Sarah est avec nous. Sarah, bonjour, bienvenue et bon Ramadan.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, salam alaikum.
Salam alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je vous appelle pour une question. En fait, j'ai mon fils qui a 12 ans, bientôt 13 ans. Et en fait, il a un retard global. Donc là, il est suivi depuis sa naissance. Et je voulais savoir, est-ce que... Je sais que le qalam normalement marfou alayh, mais je voulais savoir, est-ce qu'il doit jeûner ou pas?
Bah non. S'il est marfou anhu le qalam, marfou anhu alayh, kul shay. Y compris la prière, que le jeûne, que tout. Huwa inshallah min ahl al-jannah. Il fait partie des gens du paradis.
Sachant qu'il a réussi à faire, à jeûner quelques jours pour partir par là. Donc,
mais il ne faut pas lui imposer quoi que ce soit. On est bien d'accord.
Non,
attendez, quel est le degré d'attardement? C'est-à-dire qu'il est trisomique?
Non, en fait, il a ce qu'on appelle ça, parce qu'en fait, il y avait des examens génétiques qui ont été faits depuis sa naissance et même pendant la grossesse. Donc,
mais madame, rentrez pas trop dans les détails techniques. Dites-moi aujourd'hui dans quelle situation il est. Est-ce qu'il est conscient de son entourage et du ramadan? Est-ce qu'il sait ce qui se passe aujourd'hui?
Oui, il sait. En fait, il est dans un IME.
Maintenant, est-ce que physiquement, il est physiquement capable de jeûner?
En fait, non, parce qu'il pèse que 25 kilos pour 12.
Donc, en ce qui le concerne, il n'y a pas de jeûne. D'accord.
Même s'il veut lui faire des jeûnes.
Ah, bah écoutez, vous le surveillez, il faut le surveiller. Oui. Si vous acceptez de le laisser jeûner parce que c'est lui qui demande, Bien sûr, c'est lui qu'il ne faut pas le forcer, hein, il ne faut surtout pas l'obliger. Donc s'il lui demande, il faut le surveiller. Au moindre malaise, dès que vous voyez que ça ne va pas, il faut tout de suite lui faire manger et boire quelque chose. D'accord ?
D'accord, ok.
Allah yaqatik al-khouwa pour supporter.
Merci, merci.
Parce que c'est une lourde charge, une lourde responsabilité.
Oui, alhamdoulilah.
Merci Sarah.
Merci à vous. Merci, bonne
soirée. Bonne soirée à vous aussi.
Alors Naïma est avec nous. Naïma.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, donc j'ai deux questions en fait, mais c'est dans la même philosophie un petit peu. La première, vous en pensez, bon, que la religion pense de la loi d'attraction, la loi de l'énergie, en fait, on attire nos pensées.
La loi de l'énergie, la loi de
l'attraction. L'attraction.
On parle des matières, la matière physique,
non,
on parle des
parle
matières.
De,
ah, c'est autre chose.
Développement personnel, mais laissez-la finir.
En fait, c'est tout, on va dire que c'est un parcours psychologique qu'on active dans notre cerveau, en fait, pour attirer le positif. Après, quand j'ai essayé un petit peu de rattacher les choses entre ce que les psychologues disent, que c'est un musulman ou pas, et en recherche dans le Coran.
Ma sœur, moi, j'adhère pas à tout ça.
Attends.
Voilà. En tout cas, moi, j'adhère pas. Maintenant, si Othman, il a son
propre explication.
En tout cas, moi, l'imam, je n'adhère pas à tout ça.
Je vais laisser finir sa phrase.
Allez-y.
Alors que je pense que s'il y a quelqu'un qui doit, s'il y a une religion, je sais pas, notre religion, elle a tout le mérite dans ce domaine-là, parce que quand on lit seulement le verset Inna Allah 'inda dhanni 'abdi, le Dieu, il soi-disant, il, comment dire en français,
Ana 'inda husni dhanni 'abdi bi. C'est ça.
C'est pas un verset.
Voilà. C'est pas un verset, c'est un hadith du prophète. Un hadith du prophète. Mais il est authentique.
Voilà, exactement.
C'est un hadith Qudsi. Hadith plus faible celui-là, mais bon. Alors, ça c'est lié à l'optimisme, c'est-à-dire à l'étape psychologique dans lequel Allah Azza wa Jalla et le prophète, bien sûr, à travers la révélation, nous encourage à être optimiste dans la vie et à promouvoir la joie, le bonheur, le bien-être, etc. Oui, ça c'est vrai. Mais truc énergie, je sais pas quoi, ça non. Moi, tous ces vocabulaires, je n'y adhère pas. C'est pour moi, elles ne sont pas conformes. Ce ne sont pas des vocabulaires qui sont utilisés ni dans le Coran ni dans la Sunna. Et moi, malheureusement, je m'arrête à ça.
Mais madame, je voulais.
Deuxième question.
Alors attendez, parce que Naïma, on vous répond à votre question, mais il faut écouter un petit peu. Alors, Ousmane, non, vous interroger.
Ouais. J'ai l'impression que vous voulez savoir si il y a un lien entre ces notions spiritualistes de développement psychologique autour de l'énergie et le Coran, c'est ça? Vous dites que le Coran porte ce genre de message?
Oui, et franchement, j'aimerais bien qu'on ait un peu des recherches en lisant tous ces versets-là qui nous poussent à être optimistes et rattacher tout ça. C'est tout un parcours qui est vraiment bénéfique, et je sais de quoi je parle.
Bon, en ce qui me concerne, je suis aussi de l'avis de notre frère Abdel Ali. La question du développement personnel et de toute la galaxie un peu qui tourne autour de la loi de l'attraction, le fait de vouloir et l'univers répond par ton énergie positive à tes besoins, qu'on essaie de transposer ensuite à la religion par voie d'interprétation, est problématique. La notion même de développement personnel aujourd'hui est à questionner parce qu'elle est en lien avec des idées d'unité du monde. C'est une forme de
monisme.
D'unonisme, premièrement, où Dieu, l'être humain, l'univers, tout ça, c'est une seule et même chose. C'est aussi en lien avec certaines religions ancienne ou sagesse au début du 19e siècle, par exemple, où on adore des esprits, on adore le diable, une forme de théosophie et qui pose problème. Et on récupère en réalité un certain nombre de notions qui existent dans les religions asiatiques, mélangées avec un certain nombre de cultes autour de Lucifer d'ailleurs, et tout cela donne, à un moment donné, un certain sous-produit culturel autour du capitalisme qu'on utilise aujourd'hui, en disant aux gens, au fond, pour vous en sortir, c'est vous. Il suffit d'être positif, tout se fait à l'intérieur de vous, si tu réussis pas, et moi, c'est ta faute.
Moi j'appelle ça une spiritualité, un cheminement spirituel laïque.
Oui.
C'est-à-dire ou athée.
On entend.
On enlève le divin. Voilà. Il y a rien à voir. Dieu n'existe pas dans l'histoire. Il y a une énergie universelle. C'est elle qui gère l'émotion et le destin, etc. Non.
Mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec nous.
Bah, non, ça là-dessus, c'est de l'hérésie. Hein. En tout cas, par rapport à l'islam, c'est de l'hérésie.
Bon, je dirais pas jusque-là, mais peut-être qu'elle a son avis. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient de dire?
Franchement, moi, je suis médecin. Je peux pas, je suis médecin.
D'accord, très bien.
J'ai approfondi un petit peu la question de la loi d'attraction, tout en l'appliquant même par rapport à certaines de mes patients. Je travaille ici en France. Et j'ai eu moi-même des périodes difficiles. Et à partir du moment où je me voyais, moi, pas responsable de mes actes, que le maktoub m'a été imposé, que le bon Dieu, je sais pas moi, alors que je suis... En fait, depuis que j'ai compris que je dois me remettre moi en cause, j'ai aimé le bon Dieu et je pose le mot...
Mais il me semble, chère madame, après je m'arrêterai ici, surtout peut-être que vous avez une autre question, ouais. Puis Philippe est là, il me semble que vous devriez, vous par contre, approfondir au même niveau que votre spécialité de médecin, tel que vous le dites, votre connaissance de l'islam. Parce qu'elle est un peu superficielle, en tout cas avec tout le respect que j'ai pour vous, pour vous permettre de faire des éléments de comparaison. En ce qui nous concerne, en ce qui me concerne, la loi de l'attraction est une fumisterie intellectuelle.
Bah oui, l'attraction, elle existe en astronomie. Il y a des causes. Et ce sont des astres gigantesques qui peuvent.
Voilà. Il y a des causes et des effets. Il y a une relation avec le divin et des actions que l'on pose pour arriver à ses fins. Et Dieu est le plus savant, bien sûr.
Les planètes ont une attraction les unes par, mais pas les humains. Attendez, une attraction.
C'est-à-dire qu'à moins qu'il y ait des attractions amoureuses.
Non, mais ça, c'est autre chose.
Non, non, non. Il n'y avait pas que les humains.
C'est vrai qu'il est beau gosse.
Là, vous vouliez des questions différentes, au moins ça change.
Alors, c'est bien,
on va revenir dans un instant. Allô, l'imam au 01 53 48.
Merci à vous, chère madame.
Ramadan & Co revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Et Ousmane Timira qui est avec nous sur ce plateau. Dans un instant, à 18h, nous accueillerons Kamel Chekat. Mais Ayoub est avec nous au 01 53 48 3000. Bonsoir, bienvenue et bon Ramadan. Allô, Ayoub. Oui.
Oui, salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah, Ayoub.
Oui, j'avais une petite question. En fait, aujourd'hui, avec ma mère, on s'est pas réveillé pour un sourd.
Oui.
On s'est réveillé en gros quand il a Azen.
Oui.
Et ma mère, elle prend des médicaments. Est-ce que quand il a Azen, elle aurait pu prendre ses médicaments ou pas?
Alors attendez. Vous habitez où, à Paris? C'est où vous êtes?
Non, j'habite à Limay.
À Limay, à côté de Mantes-la-Jolie?
Oui, c'est ça.
D'accord. Vous êtes réveillé au calendrier de la mosquée de Paris ou celui de musulmans de France?
Quand il a
Azen. Alors attendez, je vais commencer à être plus simple. À quelle heure vous vous êtes réveillé?
Quand il a Azen.
Oui, mais dis-moi, c'est quelle heure? À quelle heure?
5h40,
c'est mort. C'est mort, 40, ça y est, c'est fini. Parce que même 5h40, c'est l'heure, c'est le plus tard qui est celui de musulmans de France. Vous ne pouvez ni manger ni boire. Par contre, si votre mère a forcément besoin de ce médicament et que ça constitue un risque pour elle, donc on lui dit, commencez votre jeûne. Et dès que vous sentez une gêne parce que vous n'avez pas pris votre médicament, vous cassez cette journée-là, vous la referez une date ultérieure. D'accord? Est-ce que tu as compris ma réponse?
Oui, oui, oui.
C'est-à-dire qu'elle commence le jeûne, comme toi. De toute façon, toi, tu n'as pas de médicament, on est bien d'accord?
Non, moi, je n'ai pas de médicament.
Bon, toi, tu jeûnes normal, c'est pas grave. T'as pas mangé, tu peux tenir.
Oui,
et pour ce qui est de ta mère qui a un médicament à prendre et qu'elle n'a pas pris, elle commence son jeûne. Et si elle commence à avoir une gêne à cause de ça, c'est-à-dire qu'elle, je sais pas moi, elle fait un vertige ou des malaises à cause du, parce que moi, vous m'avez pas précisé quel type de médicament, ni la maladie, ni quoi que ce soit, donc je peux pas vous répondre correctement. Mais en tout cas, si globalement, elle a une gêne qui est provoquée par l'absence de prise de ce médicament, elle casse, elle prend le médicament, et là, elle mange et elle boit. Hein. Il faut pas qu'elle prend que le médicament et elle continue à jeûner, ça sert à rien. Hein. Moi, je m'étonne qu'aujourd'hui, je sais que là, parmi celles et ceux qui m'écoutent là aujourd'hui, il y en a qui s'autorisent à prendre un médicament et ensuite se privent de manger et de boire, alors que le soleil est déjà levé. C'est déjà la journée. C'est complètement absurde de faire ça. Si vous prenez votre médicament, ça y est, votre journée, elle est cassée. Vous n'avez pas besoin de partir vers un jeûne qui ne sert strictement, puisque vous aurez cassé votre jeûne, vous avez mangé. Par contre, si c'est une prise intraveineuse ou intramusculaire, là, vous pouvez continuer votre jeûne sans problème, puisque ça n'annule pas le jeûne. Okay, la prise médicamenteuse, bien sûr. Hein. La prise médicamenteuse n'annule pas le jeûne. Mais si ça rentre par la bouche, par la gorge, et vous l'avalez, khalas, c'est un battle, c'est un ta. Il est cassé. Vous avez cassé votre jeûne. Donc ça sert à rien de vous abstenir. Mangez, buvez, cette journée-là, khalas, elle compte pas.
Voilà, Youb, ce qu'on pouvait vous dire ce soir. Kamel Chekat nous a rejoint. Kamel, chercheur en théologie, membre fondateur des Oulémas du Sahel. Et qu'on est...
Alaykoum salam.
Salam alaykoum, Cheikhan Al-Fadil.
Salam alaykoum, Cheikh Abdelali, Cheikh Ousmane. Et puis, je ne sais pas s'il y a d'autres invités.
Ah bah, il y a Philippe Robichon, déjà. Tu peux dire Philippe Robichon. Notre Philippe, à nous, notre chouchou, notre... Hein?
Comment on dit pour le soir,
c'est la mat
Salamat maté,
ou
la salamat. Mais non, c'est
la mat malam. Salamat
malam. Salamat malam.
C'est en indonésien, c'est en indonésien.
Allez. Alors, pour la supposée contradiction à laquelle nous nous intéressons aujourd'hui, elle concerne les personnages cités dans le Coran. Il s'agit, un personnage plus précisément, mais nous citerons dans le sillage un autre personnage. Il s'agit de Corée, qui est parlé en langue arabe. Corée était un chef de rébellion contre Moïse et Aaron lors de l'Exode, selon ce qui est rapporté dans l'Ancien Testament. Alors, nous avons le verset 39 de Sourate Al-Ankabut qui dit « Demain nous détruisîmes Corée, Pharaon et Aman, alors que Moïse leur apporta des preuves. Ils s'enorgueillirent sur terre et ils n'ont pas pu nous échapper. » Ce verset nous cite trois personnages. Deux personnages avec Pharaon. Donc il y a Corée et Aman. Et le verset suggère que Corée faisait partie du clan de Pharaon. Là, il y a un autre personnage qui est Aman. Nous avons dans l'Ancien Testament, dans la Bible juive, le nom de Aman qui revient dans le livre d'Esther, et c'était l'un des ministres, un vizir de Xerxès Ier. Et c'était quelqu'un qui avait une haine terrible envers les Juifs. Et dans le Coran, il est cité à deux reprises avec Pharaon, ou à trois reprises. Et il y a un grand orientaliste, Georges Vajda, qui dans l'un des articles de l'Encyclopédia Islamica, a dit il y a un non-sens là-dedans, parce que le récit de Moïse fait partie intégrante de la tradition juive, et on ne comprend pas comment ce Haman, qui était l'un des notables de la cour de Pharaon, est cité dans le Coran, alors qu'on ne le retrouve pas chez les Juifs. Vajda était un historien médiéviste, spécialiste de la tradition rabbinique et islamologue en plus. Et donc cet orientaliste a relevé une sorte de non-sens ou de contradiction dans le Coran fabule carrément. Et bien, il faut savoir que Haman, on le retrouve dans les bas-reliefs en Égypte, dans les écrits qui ont été laissés par les pharaons, par la dynastie des pharaons. Revenons à Corée. Alors, dans ce verset que nous venons de citer, tout suggère que Corée faisait partie du clan des pharaons. Ensuite, on nous cite le verset 76 de Sourate Qasas, le récit, qui dit « En vérité, Corée était du peuple de Moïse, mais il était empli de violence envers eux. Nous lui avions donné des trésors dont les clés pesaient lourds à toute une bande de gens forts. Son peuple lui dit « Ne te réjouis point, car on n'a même pas des arrogants. » Et là, donc, on nous dit ce verset, contrairement au verset 39 du Sourate Al-Ankabut, l'araignée, dit que Corée fait partie du peuple de Moïse, alayhi salam. Alors, qui appartient à quel clan? Donc, avant même de répondre, faisons une petite remarque. Dans le Coran, le récit de Moïse avec Pharaon et le récit d'Adam avec Iblis, Satan, revient très très souvent. Ceci parce qu'il y a énormément d'enseignements à tirer de ces deux récits. Ils sont même à la base de ce qui fait la vie. Tant au niveau du combat de l'homme contre le diable, ou bien du combat des justes contre les injustes. Et en fonction de l'enseignement, le Coran donne en un endroit, concernant chacun de ces deux récits, des détails qu'il ne donne pas en un autre endroit. Par exemple, Quand le Coran parle de la rébellion d'Iblis, de son refus à se conformer à l'ordre de Dieu, de se prosterner devant Adam et sur lui, dans Sourate Al-Baqara, il dit au verset 34, « Lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. » Sur la base de ce verset, un grand homme de lettres égyptien par Arsé, qui avait aussi quelques écrits sur le plan religieux, est allé jusqu'à... Enfin, il m'a dit que Iblis était un ange, parce que dans ce verset, l'ordre est donné aux anges et c'est Iblis qui refuse de se conformer à l'ordre de Dieu. Mais au verset 50 de Sourate Al-Kahf, il a dit « Et lorsque nous dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent excepté Iblis, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre ainsi que sa descendance pour aller en dehors de moi, alors qu'il vous sent ennemi, quel mauvais échange pour les injustes. » Dans ce verset de Sourate Al-Kahf, la caverne, il est indiqué qu'Iblis était un démon. Pour que nul ne déduise justement du verset de Sourate Al-Baqara qu'il était un ange déchu, comme a tenté de le faire croire par Arsène et bien d'autres auteurs. En tout cas, nul ne peut parler de contradiction entre ces deux versets. Et il en est de même dans cette pseudo-contradiction qu'aurait faisait partie du peuple de Moïse parce qu'il était hébreu et non égyptien, mais il faisait partie du clan de Pharaon parce qu'il s'était rangé du côté de l'injustice. Donc, il n'y a pas de contradiction entre les deux versets. Voici donc pour la supposée contradiction d'aujourd'hui, et puis merci d'y avoir prêté attention, et à demain, inch'Allah.
Barakallahu fik.
À demain, Kamel Chekat, pendant 30 jours sur Beur FM, pendant ce mois de Ramadan. Sampa Jumpa Besok, Kamel. Alors, Wafa.
Et ça veut dire?
Ça veut dire à demain.
À demain. Voilà.
Besok voilà. Malam, ça veut dire demain soir.
Malam, parce que Malam, c'est. Voilà.
C'est Malam. Tiens, on a Wafa qui est avec nous au 01 53 48 3000. Bonsoir, bienvenue et bon Ramadan.
Oui, bonsoir, salam alaikum à vous. Alors moi j'ai deux petites questions, je vais être un peu égoïste. Alors les parents d'enfants handicapés, alors moi j'ai eu une question avec ma sœur qui me dit que Dieu a écrit dans le Coran qu'il a créé les enfants parfaits. Elle me dit que si j'ai deux enfants handicapés, elle m'explique comme quoi c'est à cause de moi et mon époux. Voilà, je voudrais d'abord savoir.
Non, c'est n'importe quoi, des bêtises. Pas...
Elle est sympa, ça, parce que.
Non, bah, attendez,
oui,
c'est n'importe
elle
quoi.
Elle m'a dit ça. Elle m'a dit que dans. Il y a un verset.
Alors, il y a un verset qui dit que Dieu a créé l'homme de la meilleure des façons. C'est-à-dire par rapport aux créatures qui ont précédé à l'être humain, c'est-à-dire l'Homo Philis, l'Homo Erectus, qui étaient des imperfections d'humanoïdes, ils étaient moins parfaits, et lui, il est parfait par rapport à ces créatures-là qui étaient imparfaites. Mais l'homme, dans sa globalité, est parfait, certes. Mais effectivement, il peut y avoir malheureusement des ratés. Il peut y avoir des trisomiques 21, des trisomiques 18, des trisomiques 13. Des malformations, il y en a plein, des enfants qui sont au niveau de leur fille. Et c'est pas à cause des parents, c'est le maktoum, c'est comme ça. C'est Dieu en a voulu ainsi, et il se passe que dans le corps de la femme, ça peut, pour la plupart du temps, se passer normalement. Parfois, ça se passe mal. Par contre, si les parents ou la mère, par exemple, a été négligente, par exemple, elle a fumé ou bu de l'alcool, effectivement, ça peut être une source de malformation, et donc le parent pourra dire qu'il a une part de responsabilité à ce moment-là. Mais si la mère et le père, ils ont rien fait de mal, ils ont fait les choses comme il faut, et que l'enfant, il est malgré tout handicapé, c'est pas les parents qui sont responsables. Est-ce que j'ai répondu à votre question ?
Oui, et j'ai juste une petite qui suit. On me dit qu'un enfant handicapé, quand on va tous mourir, est-ce qu'il y a un hadith qui dit qu'il peut appeler un certain nombre de personnes pour aller au paradis sans jugement. Est-ce que vous avez entendu parler de
non,
ça?
Non. Les enfants, non. Ce sont les shuhada, les martyrs. Ce sont, oui. Par exemple, un certain nombre de gens que Dieu a appréciés, des vertus, etc., qui ont un certain nombre de vertus que Dieu a appréciées et qui peuvent effectivement intercéder, hein, ce qu'on appelle d'accord. pratiquer la shafa'a, pour des membres de leur famille. Est-ce que les enfants font partie? Peut-être que si par exemple un enfant handicapé qui a fait souffrir ses parents et donc voilà et que ça a été une épreuve pour eux toute leur vie, ils ont subi, ils ont souffert de prendre en charge cet enfant et donc ils ont peut-être sacrifié plein d'ambitions dans leur vie pour s'occuper justement de cet enfant, bien sûr qu'il pourra intercéder pour eux le jour de la résurrection.
D'accord.
Mais c'est pas l'enfant, c'est leur travail, c'est leur effort, c'est leur sacrifice qui va être pour eux favorable.
Entendu, d'accord. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Merci
Wafa. Noura est avec nous au 01 53 48 3000. Bonsoir, bienvenue et bon Ramadan, Noura.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Oui, bonsoir, salam alaykoum.
Oui. Salam alaykoum, Philippe et Imam.
Et Ousmane.
Et Ousmane.
Et Ousmane Timira, qui est là.
Et Foudel. Et Foudel. Enfin, toute l'équipe, quoi.
Voilà, c'est plus simple.
Voilà, sans oublier personne, bien sûr. Alors, en fait, moi, j'ai trois questions.
Ah, ça augmente, là.
Comment?
Ça augmente un petit peu, là. Trois questions.
Oui, mais je vais aller vite fait. Alors, voilà, la première, c'est que, voilà, moi, je suis mariée religieusement, enfin, avec la Fatiha, avec mon conjoint.
C'est-à-dire que vous n'êtes pas mariée civilement?
Non, voilà.
Vous êtes donc déclarée comme concubin?
On est, oui, si vous.
Vous avez des enfants?
Non, on n'a pas d'enfants.
D'accord.
En fait, comme on était âgés, on n'a pas l'utilité de faire un.
D'accord, j'ai compris. Continuez.
Voilà. Donc là, par exemple, depuis qu'on est mariés, depuis un an bientôt, moi j'ai toujours mon appartement et lui le sien. Donc par contre, moi je suis tout le temps chez lui et lui tout le temps chez moi. Quand je suis chez moi, je suis avec lui. Quand je suis chez lui, je suis avec lui. Vous voyez?
Oui, mais alors? Et donc, il y a le problème?
Et le problème, c'est que la fatra, par exemple, là, on doit sortir l'argent pour le ramadan.
C'est à monsieur de la payer pour vous deux.
Voilà, c'était ça que je voulais savoir. Parce que lui,
lui qui a la responsabilité financière du couple de verser la fidia, que vous soyez dans un même foyer ou dans des foyers séparés, ou que vous ayez tout simplement deux foyers. Il y a plein de gens qui ont deux logements, deux adresses. Et parfois ils sont dans un logement, parfois dans un autre. Ça n'empêche pas que les autres règles de la vie conjugale ne s'appliquent pas. C'est-à-dire ça, toujours ça s'applique.
Voilà.
Donc en l'occurrence, étant donné que c'est à monsieur d'assumer les obligations matérielles dans un couple, eh bien c'est à lui qu'incombe la fêtera. Mais si vous voulez vous la verser à sa place, vous pouvez, hein, c'est pas interdit.
Oui, mais dans la logique de la religion, c'est à lui.
Non, madame, c'est lui à qui on l'impose. Mais si vous dites non, mais moi j'ai envie de la verser, ben vous pouvez, c'est pas interdit. Mais
apparemment, ce qu'elle veut, c'est son monsieur qui le fasse. En
fait, oui, 7 euros, et eh ben dis donc, là on est.
Non, c'est pas ça. C'est
voilà.
Lui, il ne savait pas parce que moi, on pensait que moi je devais payer chez moi et lui devait d'accord. payer chez lui.
En raison de la séparation du.
Non, mais parce qu'il y en a qui pensent, Othman, que c'est obligatoire que chacun qui est chez soi doit payer pour lui. C'est-à-dire
c'est selon
que tu ne peux pas payer pour l'autre.
Le foyer, quoi.
Non, ça n'a rien
foyer.
À voir.
C'est pas lié au foyer. C'est lié au lien couple. Marital.
Au lien d'accord, conjugal. Okay. Vous êtes marié, c'est à monsieur d'assumer. Si lui, vous dites, voilà, moi, j'ai envie de payer parce que j'ai envie de faire une sadaqa, ou bretana tfaha de l'âme, mais chez Makam, je n'y a pas de problème.
Alors, on y va pour la deuxième question, Noura, s'il vous plaît. Oui.
Voilà, la deuxième question, c'est que j'ai une sœur qui est en EHPAD, qui est handicapée, intellectuellement, on va dire même physiquement, elle a des problèmes de vue et d'audition, et elle ne fait pas le ramadan. Et je voulais savoir, par exemple, elle ne peut pas donner ni la fatra, ni rien du tout, parce qu'elle est sous tutelle.
Elle s'occupe d'un tel, ouais, tutelle. D'accord, et donc tutelle.
Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un problème?
Est-ce qu'elle a des parents vivants, de la famille vivante?
Non, elle a des parents qui sont décédés, et elle a moi, alors, c'est sa sœur, et elle a des.
D'accord, normalement les personnes qui sont sous tutelle, ils ont un tuteur. Donc, c'est qui le tuteur?
Oui. Eh bien, c'est l'État.
Ah, il n'y a pas de nom, ils n'ont pas mis un nom d'une personne?
Non, c'est une tutelle de l'État, c'est la curatrice qui s'occupe d'elle. C'est pas une personne de la famille.
Voilà, c'est pas quelqu'un de la famille. Et c'est elle qui gère son argent et vous ne pouvez rien faire, vous.
Voilà.
Il n'y a pas de fidia. Il n'y a pas de fidia. Voilà, puisqu'il n'y a pas d'argent. voilà. vous n'avez pas l'obligation de le faire pour elle. Et si vous avez envie de le faire, vous pouvez. Non, vous n'avez pas l'obligation de le faire. Si vous voulez, vous avez envie de le faire, vous pouvez. Parce que laïsa mimman yajibu alayka nafaqatuhum, ce n'est pas une personne qui est sous votre charge islamiquement parlant. Ce n'est pas vos enfants ou vos parents. Si ça avait été vos enfants ou vos parents, oui. Là, vous auriez eu un devoir de solidarité. Mais vos frères et sœurs, non. En plus, ils n'habitent pas chez vous. Donc, il n'y a pas d'obligation là-dessus.
Allez, on y va pour la troisième question. Rapidement, s'il vous plaît, Noura.
Oui, oui. Moi, c'est la troisième question. Ça n'a rien à voir avec la religion. Enfin, si, ça a à voir avec la religion, mais ce n'était pas pendant le ramadan. C'était savoir, par exemple, est-ce qu'il est possible d'acheter un bien en viager?
Non, parce que le viager, il a deux problèmes, deux défauts, ce contrat. La date d'acquisition est inconnue, puisque c'est lié à la mort de la personne. Et le prix aussi est inconnu, puisque vous continuez à payer tous les mois. On ne sait pas combien vous allez donner, parce que le gars, il peut mourir demain, il peut mourir dans un an, il peut mourir dans 20 ans, il peut mourir dans 30 ans. Donc finalement, la valeur du produit est inconnue. Et la date d'acquisition est inconnue. Ces deux critères qui sont indispensables dans une transaction commerciale sont absents. Donc il y a rarar, il y a ce qu'on appelle jahl, absence de connaissance de ces deux critères essentiels à la validité d'un contrat de vente.
Donc non.
Non, le viager à terme. Le viager, non, pas viager à terme, viager classique. Le viager classique. De toute façon, même le viager à terme, c'est un problème aussi, puisque on a aussi la date d'acquisition qui est inconnue, et qui est liée à la mort. Il faut que le gars, il meure.
On attend qu'il meure, donc.
En plus, c'est de l'incitation au meurtre. Hein. Parce qu'imaginez, moi, j'ai un Shibani qui reste, continue à payer, puis moi, j'ai envie de m'installer, je continue à le payer. Il pourrait y avoir de l'incitation au meurtre. C'est pas bien.
Merci Noura pour vos questions. Dans un instant.
Je plaisante, bien sûr.
Bien sûr. Mais sinon, il est bien l'appartement en viager?
Ça dépend. Ah, celui que j'ai. Oui. Non, puisqu'il n'existe pas.
On rêve tous de changer le monde tout à l'heure avec Ousmane Timira.
Ramadan & Co revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h. Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
On rêve tous de changer le monde avec Ousmane Timira. Ousmane.
Oui, on rêve tous de changer le monde, comme le disait auparavant le rappeur. Et Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que les membres de ce peuple ne changent pas ce qu'ils ont en eux-mêmes. Nous sommes les responsables de notre destin. Car Dieu a des serviteurs. Inna lillahi ibad idha aradu arada. Dieu a des serviteurs qui, lorsqu'ils veulent, Dieu veut. Nous sommes donc les maîtres de notre destin, les co-créateurs de notre destin. Le créateur divin étant là à nous soutenir dans un sens ou dans un autre. L'ennemi est tapis. Et lui veut nous faire perdre cette responsabilité, cette idée de liberté. Cet ennemi est l'ennemi juré de toute l'humanité. Il n'a pas d'autre but que de nous emmener avec lui en enfer. Et la meilleure ruse qu'il lui fut donnée de faire, c'est de faire croire à son inexistence, pour parler comme Baudelaire, si mes souvenirs sont bons. Et il a une stratégie, une vision, une volonté de faire en sorte de falsifier la conscience de l'humanité, de faire perdre pied symboliquement et physiquement l'humanité. Et pour ce faire, il a inventé un certain nombre d'histoires qui se retrouvent dans certaines de nos révélations, falsifiant ainsi la religion et la transformant en religion, falsifiant ainsi la civilisation en la transformant en quelque chose qui finit par détruire l'humanité, détruire la nature. Une histoire nous a été contée, celle de nos débuts. Elle est grandiose, elle est celle de la lieutenance. Elle est celle où nous commençons par la connaissance qui nous fut donnée de pouvoir nommer les choses. Pouvoir extraordinaire, le pouvoir des mots. Les anges se prosternent, ébahis par cet extraordinaire pouvoir que Dieu a donné à l'homme à travers l'esprit en lui insufflé. Le paradis lui est donné et un feu jaloux, très loin, plus près, est en train de bouillir, de brûler. Il a refusé de se prosterner par haine pure. Il refuse, il dit qu'il est meilleur. C'est le premier des racistes. Il vote au fond pour l'extrême droite. Il est pour la colonisation, pour l'esclavagisation. Au fait, il est de ceux qui disent que moi,
parce que moi, je suis meilleur. Il se prend pour Dieu. Il est la norme. Il se dit être la race supérieure. Il se dit être la civilisation première. Il se dit être le peuple élu. Il se dit être celui qui a la couleur de peau, qui est au-dessus de celle des autres. Moi, parce que feu, je suis meilleur que lui. Parce que terre, c'est un fétu de paille, un moins que rien. Il n'est pas digne d'être le lieutenant. Oui, le moins que rien, c'est pourtant lui. Et il va falsifier l'histoire. Il va dire aux réalités, dans certaines traditions, que, en fait, Dieu avait peur. Il ne voulait pas qu'il croque de cette pomme qui se trouve sur un arbre interdit, et donc c'était l'arbre de la connaissance. Et d'ailleurs, cet arbre, ou plutôt cette pomme, est croquée. Nous la trouvons d'ailleurs sur nos ordinateurs. Je me tais. Je reviens. Et donc, il falsifie en disant, au fond, que l'être humain, eh bien, a commencé dans l'ignorance et que la connaissance qui lui fut donnée a été volée par lui à Dieu. Là où le Coran nous dit non, bien au contraire, dès le départ il était prince, dès le départ il était responsable, dès le départ il avait la connaissance. Falsification première. Deuxième falsification, le péché originel. Oui, eh bien, c'est un péché qu'il a porté et Dieu ne lui a pas pardonné et ses enfants, jusqu'à la fin des temps, porteront ce péché. Toi, quand tu nais, tu es déjà un pécheur. Ce monde-là est une malédiction. Il faut que tu t'y sentes comme un clochard, comme un être humain qui n'est pas digne d'y être. Tu dois être dans le fin fond des toilettes du salon de ce monde, là où, à la base, on t'y a mis en tant que prince, en tant que responsable, en tant que maîtrisant l'environnement et l'univers qui est autour de toi, qui est à ton service. Deuxième falsification. Troisième falsification diabolique, elle est sournoise, insinueuse. Il y avait harmonie entre homme et femme. Il fera de la femme un bout de chair tiré de la côte de l'être humain. Je vois la polémique venir parmi les musulmans. Calmez-vous. Écoutez ce que dit le Coran. Et donc faisant de la femme une moins que rien vis-à-vis de l'être humain. Et pire encore, la femme est considérée comme étant la coupable, celle qui a poussé l'être humain à manger de cet arbre qui le fit chasser du paradis. Et cette femme va porter le poids de la malédiction. Elle sera inhumanisée, déshumanisée. On dira d'elle que c'est elle qui est en fait la responsable de cette malédiction. Elle a mis l'humanité dans la terrible malédiction, c'est pour ça qu'elle n'est pas considérée comme un être humain. C'est l'alliée du diable. Elle tourne, elle vient, elle regarde, le diable l'accompagne. C'est une âme mauvaise. Et au Moyen-Âge, on posait même la question, est-ce que c'est un véritable être humain? N'est-elle pas entre l'animal et l'homme? Et ça, c'est la troisième falsification. Et tout cela mis comme des virus, comme des petites bombes dans l'esprit des gens à travers des livres lus par tout le monde qui finissent par créer un être humain en totale soumission. Un être humain en total désaccord avec ce que Dieu a fait de lui, un lieutenant de Dieu. Nous sommes venus au monde roi et il a voulu faire de nous des serviteurs en nous bloquant, en interdisant tout ce qui est autour de nous pour mieux pour chasser notre dignité, nous soumettre et faire en sorte que nous offrions nos enfants, nos vies sur l'autel de son désir et de son animosité. C'est un piège. Et vous verrez poursuivre son œuvre avec l'histoire de Noé qui lutter contre les castes et qu'il transformera en étant celui qui est à l'origine de la séparation et opposition des êtres humains, même de la malédiction de Cam, de Cham, l'ancêtre des Noirs, qui doit être, grâce à Noé, un esclave pour ses frères. Il continue le travail, un Lot qui était là pour dire, au fond, il faut que vous aimiez les femmes et que les femmes aiment les hommes et que les liens entre les deux créent la vie et la fécondité. Et ne soyez pas de ceux qui faites obstacle à cette vie. Eh bien, ils transformeront ce dernier, Lot, lui et ses alliés, peut-être des chouillours ou peut-être des rabbins ou peut-être des évêques des bonaires, grabataires, et diront de lui, Lot, qu'il est au fait le fondateur de l'inceste dans cette vie. Cette falsification se poursuivra dans tous les livres révélés, dans toutes les consciences religieuses, transformant ainsi la religion en son contraire. Là où il s'agissait d'unir, elle est devenue ce qui divise. Et le malheur dans l'ignorance est de confondre la religion avec cet opium du peuple qui nous est présenté et que d'aucuns, au nom de la laïcité, veulent confondre avec la révélation pour la parquer dans le petit coin de nos intimités. La religion n'est pas opium du peuple. La religion, oui. La religion du diable, la religion est là pour nous emprisonner. Il faut donc revenir à cette révélation qui insuffle l'esprit dans le cœur de l'homme, dans le cœur des peuples, dans le cœur des opprimés, et qui fait de nous des hommes, des femmes, des héritiers, des leaders qui transforment le monde. Il faut revoir notre vision de la religion qui a été falsifiée et libérer la révélation et la religion de l'emprise des dominants qui aiment, dans leur propagande, nous faire croire que nous sommes des moins que rien. Cela continue, religieusement ou laïquement. La transformation n'aura lieu que si nous prenons en charge de comprendre nous-mêmes les sources spirituelles de l'humanité.
Ousmane Timéra, tous les jours pendant ce mois de Ramadan, vous retrouvez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Et tout à l'heure à 19h06, c'est l'ADEN en direct.
Ramadan & Co revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Beurre FM, Ramouvision. Arabe et sa traduction en français.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ.
Ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-mêmes, ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine certes s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Voilà que nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner.
أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور.
Vous, musulmans, vous les aimez, alors qu'ils ne vous aiment pas. Et vous avez foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « Nous croyons ». Et une fois seuls, de rage contre vous, ils se mordent les bouts des doigts. Dis « Mourez de votre rage. En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. »
إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
Qu'un bien vous touche, il s'en afflige. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurants et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font.
<t'-> والله سميع عليم.
Lorsqu'un matin, Mohammed, tu quittas ta famille pour assigner aux croyants les postes de combat, et Allah est audient et omniscient.
إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
Quand deux de vos groupes songèrent à fléchir, alors qu'Allah est leur allié à tous deux, car c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance.
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
Allah vous a donné la victoire à Badr, alors que vous étiez humiliés. Craignez Allah donc, afin que vous soyez reconnaissants.
إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين.
Allah vous a bien donné la victoire lorsque tu disais aux croyants: ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide 3 milliers d'anges?
بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين.
Mais oui, si vous êtes endurant et pieux, et que les ennemis vous assaillent immédiatement, votre Seigneur vous enverra en renfort 5 000 anges marqués distinctement. Et Allah ne le fit que pour vous annoncer une bonne nouvelle et pour que vos cœurs s'en rassurent. La victoire ne peut venir que d'Allah, le puissant, le sage. Pour anéantir une partie des mécréants, ou pour les humilier par la défaite, et qu'ils en retournent donc déçus.
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
Tu n'as, Mohammed, aucune part dans l'ordre divin, qu'Allah accepte leur repentir en embrassant l'islam, ou qu'il les châtie, car ils sont bien des injustes.
وللله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم.
À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il pardonne à qui il veut, et il châtie qui il veut. Et Allah est pardonneur et miséricordieux.
Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu ar-riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun.
Ô les croyants, ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément votre capital, et craignez Allah afin que vous réussissiez.
واتقوا النار التي أعدت للكافرين.
Et craignez le feu préparé pour les mécréants.
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
Et obéissez à Allah et aux messagers, afin qu'il vous soit fait miséricorde.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux.
Retrouvez tous les programmes du Ramadan en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM. Beurre FM, le Ramadan, 30 jours avec vous. 30 jours avec vous.
Et je vous rappelle que pendant 30 jours, vous êtes gâté par Mo le patron. Si vous êtes le very important auditeur, il vous suffira tout à l'heure au top départ de composer le 01 53 48 3000. Alors ça sert à rien de l'appeler avant, parce qu'on prendra que ceux qui auront appelé au moment
où vous avez l'aura autorisé.
Voilà. Parce qu'on, parce qu'on zappe toutes les lignes et après on prend ce qui vient de rentrer dans le standard. 01 53 48 3000. Et je vous rappelle que vous gagnez une télévision connectée de 32 pouces ou un robot aspirateur d'une valeur de 200 euros. Alors, je vous rappelle également que Mo le patron, c'est une application. 4 adresses en France, Ogny, Buchelet, Toulouse et Tourcoing. Et que Mo le patron, eh bien, c'est 50% moins cher que les prix généralement constatés. Voilà.
Oui, quatre points de vente, bien à préciser. À Ogny, on a dit, c'est ça, à côté de Cergy. Oui. Buchelet, à côté de Mantes-la-Jolie. Tourcoing. Et puis, Aucamville, donc à côté de Toulouse, dans le sud.
Aucamville.
Aucamville, voilà, voilà.
Aucamville. Aucamville. Voilà. Merci.
En plus, on est très écoutés à Toulouse, je sais. Je salue tous les.
On est excessivement auditrices, auditeurs à Toulouse.
De voilà. Toulouse. Les Occitaniens, c'est ça? Occitaniens.
Ah, vous pouvez le dire.
D'accord.
Occitaniens. Bien. Donc tout à l'heure, c'est peut-être vous qui serez avec nous et qui serez le.
J'aurais fait une mamounade encore, ça aurait été chaud.
Non, non. Pas évitez sur la fin, si vous voulez. Il y a des choses que vous pouvez pas dire sur la fin.
Voilà.
D'accord. Donc pas de mamounade, rien.
Aucune mamounade.
Rien.
D'accord.
Une sourate bien expliquée ou bien comprise, par exemple, ça c'est une bonne idée.
Ça c'est intéressant.
Ouais, c'est vrai. C'est
une
vrai,
une timérade. Ça existe, ça?
Non, je sais pas.
Timéra,
c'est bien déjà.
Il a des punchlines, mais ouais, voilà.
Non, non, on va pas les qualifier.
Donc la punchline, c'est le Ramadan, c'est pas fait pour dormir.
Il y a un passage du Coran qui m'arrive de méditer quand je suis dans des états de détresse et de tristesse. C'est le passage de la sourate An-Nahl, la 16e sourate, qui dit au prophète, sur lui la paix, nous savons que ce qu'ils disent serre ton cœur de tristesse.
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ
وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Et Dieu de lui dire que ton cœur qui se sert en raison de ces moments de difficulté et d'adversité, eh bien tu dois faire preuve de persévérance et de patience. Ta patience, patiente, car ton endurance ne tient que de Dieu. Et ne sois pas triste à leur sujet. Et ne sois pas dans une situation de resserrement du cœur et de ta poitrine à cause de ce qu'ils disent. Car Dieu est avec ceux qui le craignent, ceux qui sont conscients de sa présence et ceux qui sont bien pleins d'excellence et de bienfaisance. Moi, ce sont des passages, je pense Abdelali Mamoun pourra en parler, dans les moments de difficulté qu'il a sans doute vécu dans sa vie.
Qui n'en a pas vécu.
On a des passages du Coran comme ça qui viennent vous apaiser le cœur. Ils disent, en fait, le prophète, il était triste lui aussi. Mmh. Lui aussi, il sentait des choses. C'était pas le monsieur Superman qui ne ressentait rien. Il était le meilleur d'entre nous parce qu'il était tout sensible, tout aussi sensible, si ce n'est plus que nous. Mmh. Et pourtant, le Coran, Allah vient l'apaiser et lui demande de s'apaiser, de se tranquilliser. Comme à nous, nous devons aussi nous tranquilliser, nous apaiser à l'écoute de ces passages.
Oui, c'est vrai que l'émotion de tristesse est incompatible, du moins est particulièrement rejetée par la foi musulmane parce qu'elle décourage le croyant, elle crée un défaitisme, un scepticisme, qui est très mauvais pour l'encourager, pour créer cet enthousiasme et cet encouragement. Le croyant doit être optimiste, il doit être toujours dans la joie et le bonheur au maximum qu'il le peut. Bien sûr, il y a des circonstances dans la vie qui fait qu'on est triste, et c'est pour cela que même Dieu donc intervenait pour consoler son prophète. Il le consolait. La tahzan wa la takun fi dayqin mimma yamkurun. C'est une consolation. Un silwanun min Allah azza wa jalla li habibihi Mustafa salawatu Allah wa salam alayhi. Comme il le faisait lui-même, le prophète, avec ses compagnons, notamment Abu Bakr dans la grotte, il dit voilà. Donc, tout au long de la vie du prophète, Dieu consolait son prophète et le prophète consolait ses compagnons.
Et nous devons être consolés par Dieu à travers le Coran. Moi, quand je parle, j'ai l'impression que ça parle à moi. Mm-hmm. Moi, quand je lis le Coran, j'ai l'impression que c'est à moi qui parle.
Mais
moi,
il parle, à toi, il parle
à tous. En fait, j'entends Jibril en train de me dire, mais non, sois pas triste. C'est vrai, t'as reçu des coups, mais t'inquiète pas, tu vas t'en sortir.
Ah, Rasoul est là.
Non, mais une inspiration. Hein, franchement, moi je kiffe le Coran. Moi, quand je le lis, j'ai l'impression que ça me parle. Voilà, c'est dans la vie du travail, dans le quotidien, dans les moments de tristesse, quand un proche meurt, on est là, on est porté par la vie, et puis on a une voix douce, rassurante, qui vous parle, qui vous apaise. Parce qu'en fait, la grandeur est toujours accompagnée de tristesse.
Tu sais que cette parole que je viens de dire, Awahyun Bahda Rasulillah, elle est une histoire.
C'est Anas qui raconte ça à Othman.
Ça concerne Othman. Oui. Ça concerne Othman bin Affan, qui a vu entrer un homme dans la mosquée avec le visage dont les traces qui restaient sur son visage de quelqu'un qui avait...
qui avait regardé ce qu'il fallait
voir. Un petit peu vicieux. Un regard vicieux. Et le prof, et Sayyidina Uthman a dit, ma balu qawmin yadkhulun al-masjid wa fi a'yunihim athar az-zina. Ils ont les traces de la fornication dans leurs yeux. Et là, l'homme qui savait ce qu'il avait fait à l'extérieur avant de rentrer, donc notamment il avait eu un regard vicieux vis-à-vis peut-être d'une femme qui passait par là, il a dit, est-ce qu'une révélation après la mort du prophète? C'est-à-dire que comment t'as pu deviner que moi j'avais fait ça? Et donc il y a cette firas, c'est ce qu'on appelle capacité de regard perçant,
intuition.
Qu'il y ait une intuition divine, bien entendu, c'est un miracle, un don d'Allah Azza wa Jal, que Dieu ait fait à certaines personnes qu'il a élues, qu'il a choisies, et qui accorde la firasa, la fameuse.
Bon, moi, j'en fais pas partie, les amis, j'ai aucune firasa.
Ittaqou firasat al-mu'min fa'innahu yara binurillah.
C'est vrai.
Craignez la firasa du croyant, car il peut voir avec la lumière de Dieu, disait le prophète. Qu'Allah nous accorde cette firasa et faire les bons choix dans la vie.
Amin.
Yunir lana darbana wa tariqana wa yuhdiyana subul salam, inshallah. Le chemin de la paix.
Amin.
Firasa.
La firasa, voilà. La firasa, c'est.
C'est un bon nom à donner.
Comment on dit en français?
Non, c'est intéressant.
Ouais. T'as un mot en français pour expliquer
c'est
ça?
L'intuition, en fait. La clairvoyance.
Parce que
l'intuition.
Clairvoyance, voilà. Ouais,
c'est plus la clairvoyance que l'intuition.
Non, mais la clairvoyance, en arabe, c'est basir.
Ouais, mais
c'est plus l'intuition. C'est ce sixième sens qui te fait sentir les choses avant que ça vienne.
Et tu devines certaines choses rien qu'au regard, au premier regard. Effectivement.
Bon, moi je l'ai pas. Moi j'ai que le Coran. Quand je le médite, ça me fait un peu pleurer et ça me donne du courage. Mais peut-être.
Il est bien de pleurer, mais il y a pleurer et puis être triste. C'est pas la même chose.
Non.
Pleurer motivé par la crainte, qui est donné un autre sentiment. On a la crainte de Dieu. On pleure par crainte, mais pas par tristesse.
Non, la tristesse
est détestable. La crainte est louable. Voilà.
Bien. Alors, nous avons l'agent Fofo qui réalise l'émission. Agent Fofo, vous appelez tous les gens qui sont standards là. Tic, 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 tic. Non, mais mieux que ça.
Agent Faudel, c'est ça?
C'est l'agent Fofo, ouais.
D'accord.
Voilà. Et donc, c'est le top départ si vous voulez être l'audience. C'est pour donner la chance à tout le monde, en fait. Voilà. Il y a des gens qui n'arrivent pas à me dire oui, moi, j'arrête pas d'appeler. J'arrive pas à avoir le standard. Comment ils font les autres, tout ça. Donc là, on a zappé tout le monde. Ce qui veut dire que là, maintenant, il y a autant de chances pour tous ceux qui nous appellent au 01 53 48 3000 pour être le very important auditeur. 01 53 48 3000. Qu'est-ce qu'il y a?
Je voulais donner le chiffre.
Oui, bah peut-être, si vous êtes sage.
Vas-y.
J'hésite. C'est le gars.
Promis, je suis sage comme une image. Tu connais l'image.
J'ai été très méchant.
Sage comme une image.
Bien. J'hésite entre l'agent Fofo et l'imam Abdelali. Agent Fofo, qu'est-ce que vous pensez?
Non.
Ouais. Vous pensez que c'est mieux si c'est l'imam Abdelali Mamoun qui.
En plus, comme j'ai le regard sur l'écran, je peux tricher. Non, mais il n'y a pas de nom, donc on ne peut pas deviner.
Vous ne pouvez pas tricher.
Il n'y a pas de nom.
Voilà. Non, à moins que... Non, vous pouvez
pas tricher.
Bon. Donc vous connaissez le principe, vous devez donner un chiffre entre 1 et 6.
Alors voilà, je choisis aujourd'hui le chiffre 3.
Tout ça pour arriver là.
On y est arrivé.
Alors, qui est sur la ligne numéro 3? Bonsoir, bienvenue, bon ramadan.
Bonsoir.
Bonsoir, salam alaikum.
Wa alaikum salam.
Eh ben, c'est grâce à Allah, mais aussi un peu grâce à moi, que vous avez gagné aujourd'hui l'aspirateur. Ou la télé.
Eh ben, c'est une belle surprise, parce que franchement, j'ai appelé justement, en écoutant l'imam Abdelaziz qui venait de dire justement sur la chance, et puis j'ai tenté ma chance, et bah,
Alhamdulillah.
Ah, vous avez passé un appel et vous avez été prise tout de suite?
Tout de suite, maintenant, là. Ah. Je m'y attendais même pas.
Et c'est pour ça que je disais que tout le monde a la même quantité de chance, parce qu'on a zappé tout le monde. C'est ça qui est bien. Mm-hmm. Bien, quel est votre prénom?
Des années que je vous suis, des années que je vous écoute, et Alhamdulillah.
Et je suis content que c'est une femme qui a mon cadeau.
Et comme on dit, fidélité récompensée.
Voilà, fidélité récompensée. Shukran jazila.
Bon, quel est votre prénom?
Nassira.
Très bien. Et vous nous appelez d'où ce soir, Nassira?
Alors moi, j'habite à Bazemont, dans le 78, Lille-Yvelines.
D'accord. Et là, vous êtes en route pour rentrer chez vous, c'est ça?
Exactement. Je viens de récupérer ma fille de son cours d'équitation.
Voilà. Eh ben, l'équitation, machallah.
Faut quitter le boulot. Voilà. Alors, qui sont ceux à qui vous voulez passer un message ce soir?
Cheval.
Alors, un message tout particulier pour mon beau-père, qui est très très malade.
Allah yashfih.
J'aimerais qu'on puisse faire des doigts pour lui.
Allah yashfih. Nas'alou Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, nishfih. Allahumma radda lahu sihhatahu wa afiyatahu. اللهم رب الناس أذهب بالبأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما الله يشافي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين
آمين
voilà.
آمين
bon alors comment ça se passe quand vous arrivez à la maison, le repas est prêt ou il faut encore préparer?
Vous connaissez les femmes, on est bien organisé, tout est préparé.
Tout est déjà prêt. Il y a quoi qui attend?
Il y a Mary Poppins à la maison, c'est pour ça, tu sais, claque des doigts et hop, la table est mise.
Voilà, tout est prêt. Brochette de poulet ce soir avec une bonne petite salade préparée par mon papa.
C'est papa qui fait à manger. Maintenant.
La brochette de poulet, c'est pas mal.
Le papa, il bichonne sa fille, là. Franchement, là, bravo.
Toujours.
En tout cas, moi, je lui fais un gros bisou à votre papa, il mérite.
Alors, Nassira, vous êtes dans la team télé ou la team aspirateur?
Aspirateur.
Très bien.
Voilà, l'aspirateur. C'est la grande team, là. C'est la grande team, celle-là.
Ça fait plaisir de vous faire. Ça fait plaisir de vous faire plaisir.
Couscous Dari vous souhaite un bon ramadan. Sksodari, Meirtadari. Vivez un ramadan solidaire avec Muslim Hands, 25 ans d'humanitaire à travers le monde.
Tous les jours.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تقبل الله صيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا بمزيد من الأجر والثواب آمين آمين والحمد لله رب العالمين
كسكس داري كتمنى لكم شهية طيبة سكسو داري ما يختداري Bon appétit avec Muslim Hands. Muslim Hands, votre partenaire humanitaire.
Retrouvez Ramadan & Co tous les jours de 17h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.
Ramadan & Co vous a été présenté par le Secours Islamique France. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.